France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, le jeu des 1000 euros a posé sa valise de questions à l'Abbastide Saint-Pierre, près de Montauban. C'est donc le Tarn-et-Garonne qui est à l'honneur dans les carnets de campagne. Inventaire non exhaustif d'initiatives et de solutions dans ce département d'Occitanie. Et aujourd'hui, nous parlons d'un manoir transformé en musée. Nous sommes à Fignan, à une vingtaine de kilomètres au sud de Montauban, pour nous intéresser au Magma, le musée des arts graphiques et des musiques actuelles. Un endroit qui vaut le détour. Vous allez le voir. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Christophe Jubé.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes le président de l'association Musicophage qui porte ce musée. Alors l'asso existe depuis presque 30 ans. Elle était d'abord à Toulouse avant de s'installer à Fignan. Et ce musée a ouvert ses portes en 2023 dans une grande demeure du 19e siècle qui était à l'abandon. Vous nous décrivez ce manoir d'abord ?
Alors c'est un manoir un petit peu qui ressemblait à une belle endormie, j'aime l'appeler comme ça parce que la maison était fermée depuis 50 ans. C'est une maison qui, lorsqu'on arrive par la route, ne paye pas de mine, hein. Finalement elle n'a pas un grand intérêt, elle est assez abîmée, mais lorsqu'on passe le portail et qu'on entre par le parc, on découvre une demeure un peu fantasmagorique qui a été décorée par un monsieur au milieu du 19e et qui a mis beaucoup de choses à l'intérieur. Alors beaucoup de décorations en plâtre, des papiers peints incroyables, des cheminées toutes différentes les unes des autres. Donc un manoir un petit peu qui reste quand même une maison, c'est-à-dire que c'est pas un château avec des très très grands espaces, même s'il y a des grands espaces, ça reste un manoir, c'est-à-dire quelque chose avec une taille humaine, 800 mètres carrés environ, avec un couloir principal et puis des grands salons sur les côtés. Tous différents les uns des autres. Enfin, une diversité folle.
Ça peut sembler étonnant de créer un musée consacré à la musique, notamment dans un tel décor.
C'est vrai. Alors, la famille qui a construit le manoir, c'était une famille éclairée de la Belle Époque, très cultivée. Les arts avaient une grande importance. La musique était extrêmement importante pour cette famille, puisque une des propriétaires a fait même venir un piano de New York. Un piano là, vous savez, c'est un piano qui jouait tout seul. Et on a encore ce piano. Ah. Donc, on sait que dans les archives de la famille et puis dans ce qui nous a été légué avec le bâtiment, on sait que la musique était très très importante, les enfants chantaient, apprenaient la musique, etc. Donc on a eu tout de suite ce coup de cœur et ce lien, je dirais, avec la culture dans cet endroit. On savait qu'il y avait quelque chose qui émanait de fort.
Alors, comment pouvez-vous présenter le Magma d'aujourd'hui ? Que voit-on dans ce musée, Christophe ?
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit déjà tout d'abord nos collections, puisque depuis 30 ans, nous collectionnons tout ce qui a trait à la musique depuis que cette musique est enregistrée, c'est-à-dire environ au début du 20e siècle, on a enregistré. À partir de cette époque-là, nous, on a collectionné énormément d'objets. Alors, on peut y voir des enregistrements, on peut y voir des affiches, des photos, mais aussi des objets. Ça peut être des micros, des instruments un petit peu étranges qui ont servi, qui ont tous une histoire avec la musique. Par exemple, on a un accordéon à plat, qui était un ancien musicien accordéoniste italien qui s'est fait construire cet instrument parce que l'accordéon était trop lourd. Il était âgé et c'était trop lourd pour son dos, donc il avait fait construire cet instrument. Vous voyez, on a une diversité assez unique puisque nous avons 100 000 documents, objets sur la musique.
Les amateurs de vinyle ne sont pas en reste.
Ah oui, non, on a beaucoup, beaucoup de vinyles. C'est difficile de donner un chiffre aujourd'hui parce que les dons affluent de toutes parts, c'est-à-dire que nous avons des collectionneurs qui apportent leur collection au Magma pour qu'elles puissent continuer à leur décès. Et puis, parce que nous faisons vivre les collections un petit peu partout en France, on ne travaille pas uniquement à Fignan, on travaille aussi essentiellement dans les départements ruraux, puisque nous travaillons avec les médiathèques départementales, dans lesquelles nous avons des expositions qui circulent. Donc, on a beaucoup de vinyles, peut-être 10 000 environ. Là, on est sur un don de 78 tours de 6 000 pièces, une collection assez unique. Beaucoup de choses.
Une question très cruelle. Est-ce qu'il y a une pièce de votre collection dont vous avez envie de nous parler en particulier ?
Ah oui, effectivement. Alors oui, ça peut être quelque chose qu'on a reçu il y a pas très très longtemps, qui nous a beaucoup touchés. Une dame à Paris qui était, qui avait joué d'ailleurs dans des films, qui était une ancienne actrice et qui était fan de musique, et qui chaque fois dans les années 60 où elle allait voir un concert, faisait une petite photo avec un autographe. Et bien, la dame est décédée et la famille nous a cédé son petit livre d'autographes. Donc on a dedans, des chanteurs français, des chanteurs anglais, des chanteurs américains. On a un peu de tout. Et ça, c'est assez touchant pour nous parce que c'est une histoire qui se perpétue finalement quelque part au travers de notre histoire. L'histoire de cette dame se perpétue. Et ça, c'est touchant pour nous en tout cas.
Vous proposez aussi des expositions temporaires au Magma de Fignan. La prochaine est prévue cet été. Elle concerne des machines, c'est ça ?
Oui. On a décidé de créer une exposition autour du sound art. Alors, sound art, comme ça apparaît un peu prétentieux, mais en fait, ce sont toutes les machines qui font du bruit, qui font de la musique, sans qu'on soit absolument focalisé sur le solfège ou sur la connaissance musicale, et qui sont souvent ludiques. Donc, on aura des grands artistes. On a aussi des instruments qui ont été créés par des enfants, puisque nous avons des ateliers pédagogiques pour créer des instruments de musique à base d'objets du recyclage. Donc on a plein de choses qui sont issues comme ça d'objets un petit peu incongrus, on va dire.
Il y a des objets un peu insolites qui deviennent des instruments de musique, c'est ça ?
Exactement. Ça peut être aussi bien un objet issu de vos poubelles, par exemple, ou d'autres choses. Hein. On a, par exemple, on va exposer quelqu'un qui fabrique des instruments de musique à base d'objets de chantier, des tuyaux en plastique, en PVC, des morceaux métalliques, etc. Et qui arrive à faire des choses assez incroyables avec ça. Aussi bien des petits objets que des gros objets, puisqu'on va en avoir dans le parc également.
Je le disais, Christophe Jubé, votre association était basée à Toulouse avant d'installer ce musée à Fignan, qui est une commune de 1500 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous diriez que la greffe a pris, que vous avez pris vos marques et que vous êtes adopté par les gens du coin ?
Alors oui, en partie, évidemment, ça prend du temps. Dès la première année, on a organisé une rencontre avec les habitants du village et ça s'est tout de suite très très bien passé. Aujourd'hui, nos bénévoles font partie du village, ce sont nos premiers visiteurs, ils sont tout le temps là, ils sont extrêmement fidèles. On ne s'attendait pas à une telle adhésion finalement. Oui, ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien en plus.
Et quel est le contexte culturel autour de vous ? À quel point est-il important, d'après vous, de faire vivre un lieu comme ce musée dans ce recoin de France, dans ce département ?
Ah, vaste question. Il nous faudrait plusieurs heures, Dorothée, là.
Il va falloir la faire synthétique.
On va faire simple, j'ai bien compris. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que bien qu'on soit installé dans un village qui est finalement, vous l'avez dit, proche de Montauban, on n'est pas si loin de Toulouse, etc. Nous avons une population qui est peu mobile ou qui prend beaucoup la voiture et donc forcément qui n'a pas toujours les moyens de se déplacer pour aller voir des grandes expositions, etc. L'exposition finalement vient à eux. Ce qui est un peu le principe du village. Hein. Le village s'est beaucoup mobilisé autour de la culture. On a des associations avec lesquelles on travaille, Musiqueur par exemple, qui organise des concerts à la maison, etc., etc. Donc c'est important qu'un lieu comme celui-ci, qui était un lieu finalement sur lequel il y avait de l'imaginaire, de la culture, redevienne un lieu pour les habitants, c'est-à-dire que les habitants s'approprient ce lieu. Nous, c'est ce qu'on a voulu absolument en ouvrant le lieu, c'est-à-dire que nos voisins, nos habitants, fassent partie du projet et que cette verrue, finalement, puisque 40 ans d'abandon, on imagine, les ronces, etc., redevienne quelque chose qui soit un petit peu rayonnant aussi pour ce village. On est sur un village-rue. Village-rue, le long de la départementale, je ne vous dis pas comment c'est beau. Hein. C'est superbe. Et pourtant, c'est comme dans un film, c'est comme dans Brigadoon. Dès que vous prenez une transversale, vous vous rendez compte que ce village a beaucoup de charme, qu'il y a plein de coins un peu jolis, etc. Et nous sommes un peu la lumière pour attirer... Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, c'est la façon dont on le ressent, en tout cas.
Donc, il n'y a pas de fantômes dans ce manoir, mais il y a des anges.
Oh, si. Il y a des fantômes. Alors, si, évidemment, tous les jours, il y a a des fantômes. Nous avons des anges qui sont là, évidemment, nos bénévoles sont là, prennent soin de la maison, ce sont eux qui viennent prendre soin de la maison, ça c'est vraiment super intéressant, c'est-à-dire que tout de suite on a été proche d'eux, je sais que quand on est fermé, puisque l'hiver on n'a personne, j'ai tous mes voisins qui regardent, qui m'appellent, s'il y a quoi que ce soit, enfin vraiment on est... Et puis, on a besoin de quelque chose. Ils sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai reçu 8 tonnes de documents. Médiathèque départementale de l'Ardèche, qui nous a donné 8 tonnes de documents. Donc, il faut imaginer 8 palettes énormes. Et ce jour-là, j'avais personne parce que c'était le jeudi, que c'est le jour où on a le moins de bénévoles et de personnes. Et finalement, les boulistes sont passés par là, ce jour-là, parce que le terrain de boule est juste dans l'alignement. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Christophe? J'ai dit, bah, j'ai un peu 8 tonnes de 8 palettes sur la route qui viennent d'arriver. Tout le monde s'est mobilisé et on a rentré ça en une heure, ce qui était, voilà, c'est un exemple de solidarité. Et c'était vraiment quelque chose qui nous a motivés pour venir ici, c'est-à-dire pour venir à la campagne, pour venir à Fignan, c'est-à-dire retrouver cette proximité qu'on avait un peu perdue depuis quelques années.
Et le contexte culturel dans le Tarn-et-Garonne, quel est-il ?
Alors, il y a beaucoup d'initiatives. Malgré tout, parce que ce sont des initiatives un peu personnelles et chacun essaye de faire quelque chose dans son coin. On trouve des choses, mais ça reste difficile. Voilà. Comment dire ? C'est un peu comme un forceps. C'est comme il faut tirer les opérations culturelles. Hein. Moi, je suis agent de développement culturel en milieu rural, donc c'est une spécificité. C'est vrai que le Tarn-et-Garonne est un département un petit peu plus difficile. Voilà. Mais on s'approche à un contexte difficile partout, je pense. Donc.
Voilà, ouverture à la mi-avril pour la saison 2025. Le Magma, musée des arts graphiques et des musiques actuelles, c'est donc à Fignan, dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup, Christophe Jubé.
C'est moi qui vous remercie. On vous écoute régulièrement. Je sais que le village est à l'écoute de votre émission. Je le sais parce qu'on me le dit. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites.
Et ben bonjour à Fignan
bientôt.
Et merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci, au revoir.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Je voulais vous lire le courriel de Frédéric qui présente l'association Occitalien, toujours dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Dorothée, écrit cet auditeur. Une simple idée peut parfois venir tout bouleverser quand on croit de toutes ses forces en notre pouvoir de faire bouger les choses. Avec nos projets tous azimuts et notre impressionnante équipe de bénévoles, nous ne ménageons pas nos efforts. Depuis notre création en 2021, nous sommes heureux de voir que nos activités ont profité à la communauté de Montauban et même au-delà. Ainsi se présente l'association Occitalien sur son site internet, écrit Frédéric. Mais c'est rien de le lire, poursuit cet auditeur, puisque entre de nombreux convois en Ukraine, à Valence, en Espagne, ou tout récemment à Mayotte, Occitalien continue aussi les maraudes à Montauban et se démène pour le relogement des sans-abri. Occitalien, association humanitaire basée à Montauban. Et puis je voulais revenir sur l'émission de vendredi dernier où j'ai donné la parole à la coopérative C'est qui le patron, qui vend notamment du lait et du beurre avec l'engagement de payer dignement le producteur ou la productrice. C'est qui le patron se lance dans les fruits, c'était l'objet de cette émission. Et nous avons reçu quelques messages d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent que cette marque ne vende pas de bio. Alors nous avons vérifié, il existe bel et bien des produits bio C'est qui le patron, le lait, le beurre et les œufs. Donc si vous ne les trouvez pas en rayon, eh bien c'est que votre distributeur a choisi de ne pas les vendre. Vous pouvez sans doute alerter l'enseigne sur ce sujet.